faire des œuvres non pérennes, des performances où on va manger, se réunir, etc., sont des choses qui échappent au marché par leur essence même. Tout ça sont des moyens de se positionner à l'encontre de cette période capitalocène, essayer d'imaginer d'autres possibles.
Aux Beaux-Arts, il a été très difficile pour moi de faire intégrer la nourriture comme un art. Je ne me sentais pas intégrée au niveau institutionnel dans un schéma ou dans une catégorie, que ce soit la sculpture, la peinture, la vidéo. Sur les papiers, je suis inscrite en tant qu'artiste-auteur, mais j'aimerais bien qu'on puisse se détacher de ce statut et de se rendre compte que ce n'est plus d'actualité pour beaucoup d'entre nous.
Bonjour auditeurice et bienvenue dans Paye ta vie d'artiste, un podcast Manifesto 21 qui analyse et déconstruit la précarité des artistes et travailleuses de l'art. Le travail artistique est-il un travail comme les autres? Faut-il vendre ses œuvres et faire des œuvres qui se vendent pour gagner en notoriété ou cultiver sa précarité pour l'amour de l'art? Je suis Swazik Pinault et je suis en compagnie de Sarah Dieppe. Salut! Au fil de cette série, on tend le micro à des actrices du secteur artistique pour mieux comprendre les réalités de la vie d'artiste, les coulisses du monde de l'art contemporain, et surtout ouvrir des pistes de réflexion et d'action vers un renouvellement des pratiques. Dans cet épisode, qui est produit en partenariat avec les Beaux-Arts de Marseille, on se penche sur leur dernière promotion des diplômés qui ont présenté une exposition collective intitulée Drift du 31 août au 22 octobre dernier, c'était à la Friche Belle de Mai, et parmi tous les travaux, on a eu envie de mettre en lumière les pratiques artistiques qui parlent d'alimentation.
Alors ces pratiques qui croisent art et alimentation ne sont pas nouvelles, on peut par exemple remonter aux années 60 avec le Eat Art où la nourriture était utilisée comme matériau de certaines œuvres, ou bien avec l'artiste Dorothée Sells qui faisait des performances dont le but final c'était le repas. Dans les années 2000, il y a aussi un design culinaire qui s'est développé notamment en France avec des questionnements féministes. Pourtant, on a l'impression d'assister à une forme de revival, ou en tout cas un nouvel engouement chez la jeune génération autour de ces enjeux qui lient artisanat, considération environnementale, transmission de savoir-faire, pratiques collectives. Alors, qu'est-ce que ça dit de la posture sociale de l'artiste? Et comment toutes ces pratiques soulèvent aussi des questions économiques? Parce que finalement, on en revient souvent à la problématique, quand on est artiste, comment on mange? Pour en parler, on accueille à nos côtés deux diplômés de la dernière promotion des Beaux-Arts de Marseille, Lolita Pérez, qui était en section art, et Lily Barotte en design. On va commencer par toi, Lolita. Pour ton diplôme, tu as fabriqué un moulin pour produire de l'huile d'olive à partir des oliviers des Calanques qui entourent l'école. Alors comment tu t'es mise à travailler avec ces aliments? Comment est-ce que c'est devenu un matériau artistique dans ta démarche?
Eh bien, je dirais que ça a commencé justement aux Beaux-Arts, dans le sens où on a des oliviers à nos dispositions dans à peu près partout, dans toute l'école. Et ça m'a beaucoup interpellée. J'avais envie de pouvoir les utiliser puisqu'ils étaient sur place. Et du coup, je m'en suis servie comme un matériau. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à les récolter. Et c'est qu'après que l'idée du moulin est venue.
Et aussi, tu nous avais raconté que pendant le Covid, ta cuisine te servait d'espace de travail, en fait, et ça aussi, ça a nourri ces réflexions.
Exactement, oui. Enfin, je dirais que ça a commencé par les oliviers, mais en effet, en amont, j'avais déjà beaucoup en tête de pratiquer, on va dire, l'art culinaire, et notamment dans ma cuisine pendant le Covid, où il s'est avéré qu'on s'est retrouvés tous enfermés chez nous, et moi, je me sentais hyper active de la casanerie, donc j'avais besoin de produire des choses, et la cuisine est venue spontanément comme mon atelier, et je m'en suis servie pour produire des choses. Ouais.
Lily, toi, tu as construit un food truck dans l'idée de nourrir les gens de manière accessible, donc il y a aussi une dimension éthique et écologique à ton projet, parce que tu as utilisé des matériaux de récupération pour fabriquer le food truck, et aussi parce que tu utilises des produits qui sont locaux, enfin issus en tout cas de marchés locaux. Est-ce que c'était juste dans l'idée de manger mieux, se faire du bien aux autres à travers ce qu'on consomme? Et aussi tout en étant soucieuse de ton environnement, que tu as construit ce projet ?
Dans l'idée, oui. Après, il y a eu en fait toute une partie où on a expérimenté. Au début, c'était vraiment une expérimentation. Il y a un modèle économique en fait qu'on a expérimenté à quatre sur ce food truck. Donc, l'idée, c'était de voir où sont les limites et jusqu'où on peut aller sur cet équilibre, ce deal entre rémunérer des producteurs et des personnes qui font un travail autour de la nourriture, autour de la production qui rentre dans notre éthique, les proposer à des prix accessibles, tout en nous retrouver en fait au niveau de nos investissements et voilà. C'est pour ça que du coup l'idée du food truck est aussi apparue, c'était quelque chose qui allait pouvoir être mobile. On allait pouvoir aller à des endroits différents, donc tester différents lieux. On a testé des lieux comme les marchés, où là c'était 3,50 € la place, mais du coup il y avait une population très particulière, et d'autres endroits où les places étaient beaucoup plus élevées, comme d'autres. Enfin, en fait, il y a eu pas mal de lieux qu'on a testés, mais ça fait une marge où on a pu comparer progressivement et du coup ajuster les prix aussi et trouver où on était le plus efficace et où ça pouvait être le plus chouette.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce choix de travailler avec des maraîchers locaux, des produits locaux?
Pour toute la dimension, les produits locaux, les produits... c'est évidemment dans une idée écologique, de transition écologique constante. Après, moi j'ai grandi dans le Vaucluse, c'est un lieu très, très productif, notamment en fruits et en légumes. Et en fait, c'est pas partout pareil. On n'a pas tous accès aux mêmes choses concernant les produits et surtout les gammes de prix qu'on propose. Donc, je pense que c'est issu de ça, issu des inégalités en fait visibles au sein, par exemple, entre campagne et ville ou entre différentes campagnes même. Donc, je pense que c'est parti de là. Et puis, évidemment, c'est intrinsèquement lié aussi aux pesticides, au respect de la terre. Dans ma pratique artistique, c'est des questions qui se sont retrouvées centrales, notamment autour des animaux, de la biodiversité et de la production maraîchère. Du coup, c'est vraiment... Ça s'est construit autour d'un cycle, en fait, quelque chose qu'on ne peut pas penser sans l'intégrer dans un circuit un peu plus vertueux que celui qu'on a dans nos consommations actuelles en fait et modernes. Donc c'est un peu une remise en question complète au niveau de notre quotidien en fait. Enfin, le food truck, c'était le fait de faire à manger, c'est aussi comment prendre mieux soin, comment traiter ces questions au sein de la société et venir au contact de l'autre, tout en parlant des questions du soin de la terre, du soin de l'autre, du soin du territoire, du soin des matériaux. Enfin, c'est prendre en considération tout ce qui nous entoure et voilà quoi. C'est un petit clin d'œil. Il faut dégrossir quoi. Au début, c'est pas autant frappant, mais voilà.
Trop bien. Et justement, on a échangé avec l'artiste et maîtresse de conférence Stéphanie Sago, qui a fondé et dirigé pendant 18 ans un centre d'art qui s'appelait La Cuisine, dans le Tarn-et-Garonne, et qui était précisément dédié aux questions entre art, alimentation, agriculture et design. On l'écoute tout de suite.
Alors, je pense que les jeunes générations d'artistes s'intéressent à l'alimentation aujourd'hui et aux pratiques culinaires. D'une part, je pense que c'est la crise que l'on traverse actuellement, le capitalocène et cette période désastreuse sur le plan environnemental. Et l'aliment, en fait, c'est quelque chose qui nous relie au monde et en même temps qu'on ingère. Donc, c'est quelque chose de très intime. Et je pense que cette connexion à un monde, au vivant, à quelque chose de très concret à son importance. Le fait que les pratiques de l'alimentation engagent notre lien à l'environnement, ce sont aussi des choix qu'on fait, des choix très intimes et des choix politiques dans ce que l'on souhaite pour se nourrir. Et je pense qu'il y a également un axe féministe que l'on peut retrouver à travers ces pratiques de la cuisine qui, quand elles sont axées dans le quotidien, sont essentialisées malheureusement. Et donc, on voit depuis quelques dizaines d'années des pratiques qui cherchent à renouer avec des modes de faire liés au quotidien, à l'artisanat, et de se réapproprier ces outils qui ne seraient pas une voie d'enfermement dans la cuisine et la domestication, mais plutôt des moyens de s'émanciper.
Alors Stéphanie Sago souligne que les pratiques artistiques culinaires relèvent de l'intime, mais aussi d'une mouvance féministe avec la réappropriation de savoir dit féminin. Et ça interroge aussi plus largement la réappropriation de savoir et de savoir-faire en général. On remarque une envie de se réapproprier certains savoir-faire ancestraux oubliés qui ont été gommés par une société ultra-capitaliste et mécanisée, industrialisée. On a perdu certaines pratiques, certains gestes. Et du coup, il y a une forme de retour aux sources qu'on peut voir dans le boom des reconversions dans l'artisanat et de l'agriculture paysanne, avec toute la problématique des semences anciennes, de la réglementation sur les graines, le retour un peu des légumes anciens, etc. Lolita, j'avais l'impression que tu voulais réagir. Et aussi, on se demandait, voilà, est-ce que tu t'es intéressée à ce qui t'entoure, donc les olives autour de toi, les artisans que tu connaissais dans ton réseau. Pourquoi ça t'a semblé essentiel de travailler avec ces personnes, ces ressources-là, ces matériaux-là? Est-ce que c'était aussi dans l'idée de reconnecter avec une histoire et des savoir-faire traditionnels?
Bah oui, tout à fait. Et pour juste reprendre ce que tu disais, il y a un truc que j'avais remarqué en reprenant justement un savoir ancestral, c'est qu'on a eu tendance à nous dire beaucoup que les outils et les machines qui ont été créés récemment nous permettaient de nous faciliter la vie et les tâches, alors qu'en réalité, je pense que c'est pas qu'elles nous facilitent. Je pense que oui, pour certaines, notamment, je pense, dans le bâtiment, mais je pense surtout qu'elles nous détachent clairement de notre manière d'interagir avec les autres. Et c'est ce pourquoi, en fait, j'ai aussi voulu intégrer ce moulin et pouvoir m'intéresser aux artisans et travailler avec eux dans l'idée de collaborer avec eux, d'entendre leur voix, et qui me semblait tout aussi importante dans leur savoir-faire et de pouvoir le transmettre, parce que beaucoup de gens, enfin, on se rend compte que dans ces milieux artistiques et artisanaux, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'héritage familial, et donc du coup ils se retrouvent tout seuls. Enfin, la plupart des gens que j'ai rencontrés ont plus de 60 ans et ils n'ont personne à qui redonner ces savoir-faire, et donc quand ils voient qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça, ils ont toujours un plaisir infini de transmettre ces choses, et c'est ce pourquoi j'aimerais aussi le transmettre par la suite, et ce pourquoi j'ai fait ça.
Je rebondis parce que vraiment cette question de la transmission, on trouve qu'elle traverse beaucoup de travaux. Notamment, on a discuté avec Laurence Merle, qui était également dans votre promo aux Beaux-Arts, et avec qui vous avez eu l'occasion de collaborer, j'ai l'impression, à plusieurs reprises. Donc elle a fabriqué un alambic pour distiller de l'absinthe, et elle a fait le choix de planter l'absinthe, enfin de trouver les graines d'absinthe, puis de planter l'absinthe, donc de la faire pousser, de partir en quête de personnes qui pourraient lui permettre d'apprendre à fabriquer son alambic. Donc il y a eu toute cette transmission de savoir, et aussi au-delà de ça, elle veut avoir la plus grande maîtrise possible sur ce qu'elle produit, donc de l'absinthe qu'elle plante. Jusque-là, elle nous disait, elle se posait vraiment la question de est-ce que je pourrais pas produire les matières premières de mes émaux moi-même plutôt que d'aller acheter du cobalt, etc. etc. Voilà, la question de la transmission est hyper présente dans ses réflexions, et on vous propose de l'écouter aussi nous parler de son travail et de sa démarche.
Plus globalement, moi, dans ma pratique, en fait, je vais vraiment chercher à observer les comportements humains, les connaissances et les savoir-faire de nos comportements les plus traditionnels et qui se transmettent à ceux qui sont tout nouveaux et encore assez incompris, c'est-à-dire des intelligences artificielles aux savoirs qui sont sur le point de mourir, comme la fabrication de l'alcool artisanal, bien que toujours elle se transmet, mais c'est comment elle se transmet, en fait. C'est ça qui aussi que j'observe, c'est quels sont les biais de transmission, comment est-ce qu'on récupère aussi ces savoir-faire aujourd'hui avec cette idée qu'elle est en train de se perdre. C'est cette manière-là d'observer ces transmissions, un jour de retour aux sources au final. Dans l'idée, moi, du coup, je vais observer et me rapprocher des acteurs que je peux trouver autour de moi, au plus proche. Et ça peut prendre vachement de temps. Cette première recherche-là, elle me permet d'observer, d'apprendre. Et puis ensuite, je m'en coupe un peu pour moi l'amener dans mon savoir que j'ai déjà, les outils que j'ai à disposition, l'atelier que j'ai à disposition, tout ça. Et donc, de le mettre dans le champ de l'art, de le donner à voir et de donner, du coup, par exemple, la distillation de l'alcool d'absinthe sous une forme presque abstraite, parce que je m'intéresse vraiment à la lenteur et, du coup, à la production même du produit plutôt qu'à la finalité.
Est-ce que vous voulez réagir sur cette question, notamment de se réapproprier des savoir-faire et les transmettre?
Pourquoi pas, ouais, carrément. Bah, ce que j'aime, c'est quand Laurence parle aussi du fait que comment elle s'intéresse à la transmission de ses savoirs. Je pense qu'on parle tous aussi un peu d'Internet et de la manière dont aujourd'hui on peut diffuser ces informations-là. Et c'est un outil un peu indispensable aujourd'hui qui permet justement de conserver des savoirs qui sont pourtant d'époque. Et c'est ça qui est assez paradoxal, mais qui est justement puissant dans ce genre de pratique et de transmission.
Moi, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai l'impression qu'au niveau des pratiques paysannes, tout ça, c'est de plus en plus actuel, de plus en plus discuté. Bah, autour de nous, c'est sûr, mais même, enfin, je vois, on peut remarquer les publicités. Enfin, c'est hyper actuel, politiquement parlant, c'est un sujet qui fait débat, tout ça. Et je crois c'est vraiment en marche la réappropriation des techniques. Elle est en marche, elle est évolutive, elle est différente d'avant. Et c'est vrai que, comme disait Lolita et tout, il y a pas mal de personnes qui peuvent pas léguer ça à leurs enfants, mais qui le lèguent à d'autres gens qui s'y intéressent et qui vont. Enfin, il y a beaucoup de néo-ruraux. Enfin, c'est une question hyper centrale aujourd'hui, et je pense que ça peut marcher s'il y a de l'attention, de la vraie curiosité. Et c'est pas toujours bien fait, mais c'est quand même en marche, quoi. Et sur ça, j'aimerais bien juste préciser l'évolution qu'il y a eu par rapport aux luttes, notamment au régime général, la sécurité sociale de l'alimentation, tout ça. C'est révolutionnaire et c'est important, et c'est aujourd'hui que c'est sur le tapis, quoi. On est vraiment en train de discuter de ça. Peut-être que ce ne sera pas effectif à l'instant T, tout de suite, tout de suite. Mais du coup, je pense que c'est assez chouette de voir les côtés positifs parfois dans tout ça.
Et Lily aussi, tu as toi aussi beaucoup travaillé avec d'autres personnes ressources. Tu disais un peu dans l'idée de les faire bosser aussi, ces gens, mais enfin leur offrir des opportunités de travail et du coup de trouver tout un modèle économique avec ça. Est-ce que l'artiste ou le designer, selon toi, il peut comme ça avoir un rôle dans une économie locale?
Ah bah, de toute manière, l'artiste designer, il peut avoir le rôle qui décide. Il suffit de tester et de voir où est-ce qu'on se sent bien et où est-ce que ça fonctionne, comme un endroit où on projette le truc. Si on sent que c'est vers là que ça va, bah faut y aller. Et moi, ça a fonctionné. Après, faut expérimenter. Mais la particularité de ce qu'on a fait, nous, à quatre, et qui du coup s'est ultra mélangé avec les personnes qu'on a rencontrées, les boulangers, les maraîchers, les producteurs, enfin les éleveurs pour les œufs et tout. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un mélange de compétences et il y a un mélange de métiers qui fait que, en fait, on devient tous un peu égaux, même si on ne l'est pas vraiment. Mais il y a un échange de connaissances, il y a un échange de savoir. Nous, personne ne savait cuisiner sur le food truck à part Charlotte. Il y a Charlotte qui était cuistot. Il y avait Vic et moi, on venait des Beaux-Arts. Et Candice qui était fromagère. Personne n'avait les règles d'hygiène à part Charlotte, et c'est elle qui nous a appris au fur et à mesure. On n'a pas fait un an de trucs avant pour se former. On s'est vraiment formé sur le tas. Et là, l'été dernier, on l'a fait avec Vic, qui n'avait pas Charlotte. Et c'était, du coup, je pense que c'est là aussi où la transmission, elle peut marcher, où il faut y mettre un peu d'espoir parce que ça le fait, quoi. Enfin, on a toujours l'impression que c'est super compliqué, mais à partir du moment où même le fait de construire un food truck, chaque fois tout le monde est en mode ah mais c'est incroyable, c'est pas si incroyable que ça. Justement, je l'ai fait, je savais pas souder et genre même pour les personnes qui ont pas de poste à souder, ils peuvent couper des morceaux de bois et ou même faire à vélo, enfin on n'est pas obligé de le traîner dans une voiture. Enfin en fait, faut trouver des solutions alternatives au modèle classique et conventionnel qu'on connaît et c'est ça qui fait que c'est différent, mais ça fait avancer, quoi.
On aimerait bien aussi parler de la question du territoire qui nous a semblé assez centrale dans vos projets. Toi, Lily, parce que tu travailles avec des gens qui sont ici aux alentours. Lolita, toi, pareil, tu t'intéresses beaucoup à la Méditerranée dans les savoir-faire que tu mets en avant. Et donc, on se demande aussi comment ces pratiques culinaires, elles sont intrinsèquement ancrées sur des territoires précis. Et évidemment, ça va avec la question du retour aux sources, la recherche de savoir-faire, la question du local. Et là-dessus, on a eu l'occasion d'échanger avec Azalina Mouidini, qui était aussi au Beaux-Arts avec vous en section design. Elle est originaire de Mayotte et elle s'est vraiment réancrée dans l'histoire des savoir-faire de son village natal. Donc voilà, on vous propose de l'écouter.
En partant de la question quel design pour un petit territoire tel que Mayotte, je tente d'apporter des éléments de réponse dans mon travail, nourri par l'observation de détails, d'objets, de savoir-faire, d'architecture, de ses coutumes et de gastronomie locale, etc. J'observe la biorégion du lieu, j'identifie les qualités et les difficultés, puis à la suite de temps d'échanges, de réflexions et d'ateliers, je propose des solutions pour et avec les habitants, depuis une perspective locale, singulière, grâce au design. Je fais intervenir des artisans, artisanes, des sages, des agriculteurs, agricultrices et diverses personnalités importantes du territoire dans lequel les projets sont menés, ce qui me permet d'user et de valoriser des matériaux et des savoir-faire locaux. Il y a aussi la question de la distance qu'il y a entre les jeunes aujourd'hui et les anciens. Ce qui fait aussi que les palabres qu'on avait auparavant qui nous permettaient d'acquérir pas mal de connaissances sur des savoir-faire en particulier ou des savoirs sur le territoire ne se font plus. Donc ces jeunes-là, ils n'ont plus accès à ces informations. Et c'est aussi une manière de pouvoir solliciter leur intérêt.
Elle nous explique pourquoi c'est important et avec son témoignage, on comprend comment est-ce que l'artiste ou le designer peut avoir un rôle social et fédérateur sur un territoire. Et nous, ça nous intéresse du coup comment ces pratiques, elles interrogent le statut d'artiste. Et comme on s'appelle Paye ta vie d'artiste et que c'est un peu notre fil rouge, on aimerait bien faire un lien entre précarité et pratique artistique culinaire. Peut-être pour commencer, Lolita, toi, tu te considères pas tant comme une artiste, mais tu as mis en place un mot pour nommer ta pratique, c'est pratiqueuse. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi pratiqueuse et pourquoi est-ce que tu veux te détacher du statut d'artiste?
Disons que c'est parti d'un constat simple que au Beaux-Arts, il a été très difficile pour moi de faire intégrer la nourriture comme un art, alors qu'autour de moi, je voyais mon frère qui est cuisinier et qui, du coup, pour moi, pratique artistiquement son travail et donc c'est parti de ça et c'est parti du fait aussi que les pratiques d'aujourd'hui sont tellement différentes et que je me sentais pas intégrée au niveau institutionnel dans un schéma ou dans une catégorie que ça soit la sculpture, la peinture, la vidéo et que c'était plutôt un ensemble de ces choses-là qui faisait ma position de pratiqueuse. Et qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout ce que j'ai envie, en tout cas, c'est de pouvoir apprendre toute ma vie et de pratiquer, et pas forcément d'avoir ce statut-là, même si c'est un vrai problème au niveau des services publics en France ou même ailleurs, parce qu'on a encore cette position d'artiste-auteur, et que forcément, sur les papiers, je suis inscrite en tant qu'artiste-auteur, mais pour moi, dans une idéologie ou un rêve, j'aimerais bien qu'on puisse se détacher de ce statut et de se rendre compte que ce n'est plus d'actualité pour beaucoup d'entre nous. Et ça serait important de pouvoir jouer avec ce mot-là Et c'est aussi ça que je cherchais à faire passer à travers ça.
Ouais, rendre le statut d'artiste plus poreux. Alors aussi, on a cru comprendre que pendant ta dernière année, tu as proposé à tous les élèves de ta promo de leur dédier un peu de ton temps pour les aider à développer un projet de leur choix. Comment est-ce que ce projet-là d'entraide, du coup, qui n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être artiste, comment tu l'intègres à ta pratique ?
Tout à fait, j'ai fait ça, mais je me suis très vite arrêtée parce que c'était beaucoup de travail. Mais en fait, c'est arrivé parce que justement, je me souviens d'un jour où un professeur m'avait dit que j'étais trop généreuse dans mon travail et ça semblait être un défaut. Et c'est là où ça m'a percutée parce que je m'en étais pas rendu compte. Et j'en ai justement fait une qualité où j'ai joué avec ça, le fait que j'étais trop généreuse et que j'aimais beaucoup aider les autres. Et je l'ai intégré en fait dans mon travail artistique. Et à un moment donné, j'ai juste réfléchi en me disant « Mais pourquoi j'aiderais pas les autres pour les aider dans leur travail ?» Et en fait, moi, ça va me permettre de les aider et qu'on se transmette ensemble des savoirs aussi. C'était clairement le but. Donc j'ai commencé par faire des petites actions comme ça avec les étudiants et après ça a continué, mais je me suis un peu calmée parce que du coup ça déviait un peu beaucoup sur beaucoup d'aide et moins sur ma pratique ou ma dernière année où il fallait forcément que je fasse un diplôme. Mais si j'avais pu, j'aurais continué parce que l'idée c'était vraiment de pouvoir aider les autres, de s'entraider, de partager des choses. Et il y a un mot d'ailleurs qui du coup est resté dans mon travail et même après, enfin dans ma vie au quotidien, c'est le mot commensalité, qui n'a pas forcément à voir avec l'idée d'aider les autres, mais c'est l'idée de pouvoir se rassembler autour d'une table et de manger ensemble. Et donc c'est aussi ça le principe, c'est que en aidant les autres, on se réunissait et on pouvait partager quelque chose ensemble.
Et du coup, la notion du collectif nous semble hyper centrale dans ces redéfinitions un peu du rôle ou de la figure de l'artiste. Enfin, on se détache un peu de la figure désuète de l'artiste qui est seul dans son atelier. Et donc, de la même manière que toi, tu travailles pas souvent seul. Lily aussi, toi aussi, tu t'associes à d'autres élèves ou à des personnes extérieures à l'école. Et le fait de faire de la nourriture, de créer aussi ces moments d'échange, comme tu disais, autour d'un repas... tu crées, tu vends, tu partages cette nourriture. Donc d'office, il y a la réception, il y a une notion de groupe qui se crée. Ça te semble important aussi, toi, de vraiment être sur ce temps d'échange, d'associer la figure de l'artiste à quelque chose de vraiment plus collectif ?
Au-delà de du statut d'artiste, il y a quelque chose qui est très global, c'est que tout est comptabilisé, tout est monnayé. Et c'est vrai que enfin, je partage la pratique de Lolita et l'avis de Lolita sur la question du don de soi. Personnellement, du coup là c'est hyper perso, mais il n'y a rien de plus enrichissant que de donner à des gens qui te redonnent en retour. Et c'est sur ça que c'est basé, par exemple le food truck, mais c'est sur ça que c'est basé aussi d'autres trucs que j'ai été amenée à faire. La performance pour les 48 heures du festival de l'agriculture urbaine, c'était ça, l'idée c'était de récolter des dons, donc des ingrédients, même des recettes, enfin un moment en fait avec une autre personne qui faisait partie de ce festival. Et j'ai collecté, en fait j'ai fait le tour de toutes les personnes qui voulaient participer à cette œuvre collective. Et il y a le Manu de la Casa Consola qui m'a prêté sa cuisine à travers le don, puisque en fait dans l'argent il y a quelque chose de très vicieux, à partir du moment où on paye quelqu'un, où on paye un service, il y a tellement de choses qui sont mises de côté et qui ne sont plus au centre de l'échange en fait. L'échange, le fait de passer du temps avec quelqu'un, que ce soit pour faire ou pour rien faire, c'est rempli de plein de choses qu'on n'a plus quand on file un billet ou quand on a une valeur en mode « ok, c'est temps ». Et moi, du coup, dans cette cuisine, j'ai été formée, j'y suis allée la veille et j'ai passé la journée à cuisiner. Je ne suis pas cuistot pro du tout, j'ai jamais été dans une cuisine professionnelle, j'avais juste cuisiné dans le food truck en mode pas du tout la même chose. Et du coup, c'est à travers le don, je trouve qu'il y a, il y a une émancipation, il y a un déploiement qui est total et qui est constant. Lolita, elle n'a pas vraiment cité d'exemple des choses qu'elle a pu faire à travers l'aide qu'elle a donnée à ses, à ces personnes, mais c'est complètement, elle est complètement sortie de sa zone de confort aussi, et c'est ça qui est ouais très riche dans tout ça. Et d'ailleurs, quand je me suis installée sur le Vieux-Port et que la dernière étape de cette performance, c'était vraiment l'échange avec les habitants de Marseille, c'était la gratuité, c'était dur quoi. Et puis à partir du moment où c'était gratuit, il y avait quelque chose de ok, bah on discute alors, ok, bah on goûte, ok, on peut goûter plusieurs, ok, bah. Et en fait, c'est fou que ce soit.
Tu veux dire, les gens sont tellement pas habitués que les interactions étaient super bizarres?
Au contraire, mais il y avait un étonnement quoi. C'était très étrange quoi pour eux, et en même temps, ça leur laissait une liberté de ok, tu veux goûter, tu peux goûter. Si tu veux pas goûter et juste parler, on peut parler. Si tu veux, enfin, il y a aucun souci, on t'est libre de faire ce que tu veux, tu peux partir et revenir. Il y a aussi une mobilité qui se transforme quand on a le choix. Alors que quand on paye, c'est pas pareil quoi.
Mais c'est figé, moins fluide.
Bah ouais.
Et ces pratiques culinaires aussi, bah du coup, on parlait de dons, de gratuité, et justement, on avait envie de parler du coût des matières premières, parce que travailler avec la cuisine, en tout cas avec la nourriture, les aliments, ça peut être une façon assez peu coûteuse de produire par rapport à d'autres pratiques artistiques qui peuvent être hyper coûteuses. D'autre part, dans le fait de nourrir les gens, il y a aussi une dimension utile, sociale. Et c'est finalement un geste hyper concret dans un monde de l'art qui est souvent très abstrait. On voulait encore vous faire écouter les paroles de Stéphanie Sago qui parle du marché de l'art.
Faire des œuvres non pérennes, des performances où on va manger, se réunir, etc., sont des choses qui échappent au marché par leur essence même. Et parallèlement, c'est logique puisque ce sont des pratiques qui critiquent cette période capitalocène. Pas toutes, mais enfin, c'est aussi souvent lié à ça, c'est-à-dire de revenir à d'autres valeurs pour produire notre alimentation. La paysannerie, par exemple, en opposition à l'agriculture intensive, une alimentation végane ou végétarienne, pour rompre avec l'industrie de l'élevage qui est terrible aujourd'hui, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des moyens de se positionner à l'encontre de cette période capitalocène, essayer d'imaginer d'autres possibles. Et donc, c'est logique que finalement, cela soit fait aussi pour les artistes qui développent ces pratiques dans une autre orientation que celle du marché de l'art. Voilà, reste à trouver les économies, les modes de production pour que cela existe. Mais effectivement, je pense qu'on est très loin des volontés ou du rêve de l'artiste star tel qu'on a pu les vivre au siècle dernier et qu'on vit encore un petit peu, enfin pas mal aujourd'hui.
On a aussi pu échanger avec Anne-Suan Lannes, qui est la moitié du projet Gouffo. Gouffo, c'est un projet artistique qui retient beaucoup notre attention pour cet épisode, parce que c'est un duo qui s'est beaucoup intéressé notamment à la fabrication du pain et qui s'est vite mis à organiser des banquets. Et ces banquets, ils permettent de financer leur revue qui s'appelle Hoot, qui parle notamment de moyens d'action et de subsistance individuelle comme collectif qu'on a quand on est artiste ou travailleuse de l'art. Donc vraiment, elle coche toutes les cases de cet épisode. Et leur démarche est vraiment passionnante, notamment parce que en mangeant, nous expliquait Anne-Suan, on permet à des artistes de manger parce qu'on achète ce qu'on mange, et donc voilà, elle, ça les rémunère, ça rémunère la production de la revue, etc. Donc il y a une circulation du savoir, mais aussi parce que en fait, elles vont ancrer ces pratiques culinaires dans des espaces qui sont initialement dédiés à l'art contemporain. Donc au-delà du fait de réunir des gens, ça permet d'installer quelque chose de très mouvant, de très vivant dans des espaces qui sont souvent un peu aseptisés. Et nous parler aussi de comment ça crée des dialogues qui sont beaucoup plus fluides. Bon, je rebondis par rapport à ce que toi tu disais par rapport au don, où voilà, ça décentre un peu. Bah là pareil, ça rend plus flexible, plus détendu les discussions, où ça décentre la parole, ça laisse plus de place au hasard. Et aussi ça mobilise d'autres sens que le regard. Il va y avoir le fait de goûter, etc. Et du coup, bah, toutes les deux, comment est-ce que vos projets respectifs, vous avez la sensation qu'ils ont pu vous permettre d'aller à rebours de certaines conventions du milieu de l'art et justement de créer des choses inattendues?
Cette année, c'était la première fois du coup que... Parce qu'en plus, j'étais en section design, c'est pas pareil que section art. Moi, j'étais à la fac avant. Enfin, J'avais jamais. Là, c'était la première fois cette année où j'ai exposé des trucs dans des musées, dans des salles blanches. Enfin voilà, très. Et en fait, c'est plutôt dans ce sens-là où moi, je me suis retrouvée à me poser la question de genre, ah ouais, ça peut aller là aussi. Parce que, enfin, naturellement, mon travail, il s'est toujours un peu décalé vers l'extérieur, comme bah, le food truck ou les performances. Enfin, c'est beaucoup. Le pas de côté, il a été fait dès le démarrage. Moi, j'ai plutôt fait un pas de côté en allant dans les musées, enfin, musées, dans les galeries, espaces d'art. Mais ouais, le fait que ce soit arrivé tard, que ce soit pas une place prédisposée, je pense que ça répond à la question que effectivement c'est pas là. Enfin, comme Lolita à l'école, on n'avait pas. C'est des pratiques qu'on a eues dans une école d'art qui ont été compliquées au niveau de des discussions avec les professeurs ou au niveau de. Enfin, même si on est dans une école d'art, il y a des on doit cocher des cases, on doit nous donner un diplôme, donc il faut qu'on corresponde à quelque chose, et du coup c'est pas de côté là. Enfin, moi personnellement, je les ai ressentis pendant mes 4 ans aux Beaux-Arts, quoi, déjà. Donc non, à la fin, finalement, maintenant je trouve ça, en dernière année, ça s'ouvre et c'est cool, mais c'est pas encore ultra. Cette année, ils ont fait un workshop autour du pain, autour de la pâte et autour de la cuisine, donc je pense que progressivement ça s'ouvre.
J'allais dire ça. J'allais dire, j'ai l'impression que depuis cette année, enfin, depuis que nous sommes partis, peut-être avant et on ne l'avait jamais vu certainement, mais j'ai l'impression que depuis cette année, ils sont en train d'ouvrir certaines possibilités qu'ils n'envisageaient pas. Et même, j'ai l'impression que même au niveau des enseignements, ça s'ouvre de plus en plus, en tout cas aux Beaux-Arts. Ouais.
Moi, je me souviens j'étais venue à un bilan que tu faisais. Lolita, elle avait installé toute une table avec, je ne sais plus ce que tu avais cuisiné, il y avait confiture, ça donnait juste envie de venir, trop cool quoi. Et ça avait été mal reçu, ça a été très très mal dessus. Moi j'étais en mode, ouais, c'est trop stylé, mais moi j'ai failli partir de l'école à plusieurs reprises et tout, c'était, mais bon.
Dans cette idée de faire les choses soi-même, il y a un certain refus d'une société de consommation, de l'industriel, c'est un peu ce qu'on disait au départ, y a l'idée de lutter contre la mécanisation des corps. Et là, on peut citer à nouveau Stéphanie Sago, qui nous disait que pour elle, en mangeant, on ingère des nourritures industrielles, manipulées génétiquement, etc., etc. Et donc, c'est aussi la mécanisation de nos existences qu'on mange. Et donc, pour elle, la mécanisation de nos vies, elle passe par nos ventres. Du coup, il y a vraiment toute cette question de comment est-ce qu'on lutte contre une société ultra-capitaliste, ultra-individuelle, où tout va très vite et où tout nous échappe, alors que finalement, prendre le temps justement de manger, de cuisiner, d'aller chercher à fabriquer ses propres matériaux, etc., etc., ça peut nous aider à retrouver un certain contrôle. Et je rebondis sur ce que Laurence disait au début quand elle présentait son projet. Elle parlait carrément de quête de la lenteur, donc de la volonté d'aller très lentement comme une partie prenante de son travail et de son processus de travail. Donc je me demandais si vous, pareil, la question du temps, ça avait été un élément un peu central dans vos démarches mutuelles.
Clairement, oui. Par rapport à la lenteur, je pense que c'est évident dans nos pratiques, dans le sens où on se cherche. Ensuite, il y a le temps de la recherche. Et puis, tout ce qui va avec, c'est-à-dire que, par exemple, dans une école d'art, toujours pour rester à ce niveau-là, on nous impose, mais ce qui est normal puisque ça reste un établissement public, des bilans. Donc des bilans trimestriels pour être notés. Et donc ces moments-là, c'est des moments où on doit restituer notre travail artistique. Et il s'est avéré que, par exemple, dans mon cas, dans mon travail artistique, je n'ai jamais réussi à présenter un bilan au moment où il me le demandait. Ce qui faisait que ça a été très compliqué, mais je me suis toujours sortie en leur expliquant que ça prenait du temps et que les choses prennent du temps, que ça soit dans la nature, que ça soit avec nous-mêmes, le temps de se trouver. Et c'est justement ça où c'est quand même un privilège, les Beaux-Arts, c'est qu'on a le temps de se chercher et le temps de se trouver.
Moi, du coup, ça a été plutôt l'inverse, c'est l'école. En fait, avec cette idée de food truck, moi, je suis arrivée en trombe à l'école. En plus, j'avais jamais vu ça, un endroit où on avait autant d'ateliers. J'étais en mode, ouais, dans tous les sens et tout. Et en fait, avec le food truck, où on était confronté aussi à des deadlines, à des gens, en 4 jours, il fallait faire tant de repas, il y avait tant de personnes à nourrir, il fallait faire tant d'argent pour nous rembourser, tout ça. C'est l'école, en fait, à travers les années où petit à petit je me suis dit mais en fait le temps, c'est important de prendre le temps. Et c'est vrai que les Beaux-Arts, pour ça, c'est un endroit qui t'enseigne ça, limite, et où c'est très précieux, surtout aujourd'hui, dans un truc qui va à 10 000 à l'heure.
Et pour finir, en fait, y avait cette idée d'autonomie, et peut-être d'autonomie alimentaire, parce que, bah, un peu dans vos deux pratiques, il y a cette idée de ne pas dépendre du supermarché, en fait, d'être autonome, du coup, et en s'autonomisant... du marché alimentaire et aussi un peu du marché de l'art, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres modèles économiques qu'on peut espérer en tant qu'artiste ? Comment vous avez réfléchi à ces questions
Bah surtout peut-être toi, Lily, tu peux commencer dans la mesure où vraiment cette question économique, elle est centrale dans ta démarche. Est-ce que ça t'a permis de penser autrement des modèles économiques, justement ?
Ce qui était hyper important, notamment pour moi, c'était de repenser cette économie autour d'un circuit qui était direct, c'est-à-dire les producteurs, on les payait direct. En réfléchissant à la base, en réfléchissant à l'autoconstruction, à une alimentation saine, enfin toutes ces, on est directement lié à l'humain, ce qui fait qu'il y a moins d'intermédiaires et du coup le modèle économique pour moi il a plus de sens. On l'a expérimenté sur deux saisons, il fonctionne. Après, il se pose le choix de continuer vers ça ou de continuer à re-expérimenter d'autres modèles économiques qui sont justement basés sur d'autres trucs que l'argent. Enfin, moi, ça m'a donné envie d'expérimenter ça parce que finalement, en vivant cette expérience-là, on s'est rendu compte tous que l'argent, et même au niveau des liens dans le groupe, etc., enfin, on a capté que c'était un truc de fou, quoi. L'argent, ça rend fou. Du coup, enfin, sortir de ça, finalement, maintenant, c'est comment sortir de ça ? Et en même temps, l'argent, c'est ce qui régit le monde. Donc, voilà. Mais l'objectif, c'est rester dans des liens directs. L'argent qui entre grâce aux productions, grâce à ma production, grâce à la production des personnes avec qui je collabore et avec qui on crée. L'idée, c'est de donner aux autres ou de vendre aux autres quand il y a l'argent, parce qu'on est obligé à des moments. Mais c'est sain, c'est direct. On soutient des gens qui font les choses correctement, et notamment par rapport à... En fait, on revient toujours à la graine, on revient toujours à la biodiversité. C'est hyper naïf de dire ça, mais la nature qui nous entoure, enfin moi, vraiment, c'est comment on peut arriver à faire société et à vivre en ville ou en dehors de la ville, continuer de côtoyer les mêmes personnes, d'aller aux mêmes endroits, mais en faisant du bien avec l'argent qu'on dépense, quoi.
C'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci aux Beaux-Arts de Marseille, sans qui... on n'aurait pas pu enregistrer aujourd'hui. Merci Lolita Pérez et merci Lily Barotte d'avoir partagé ce plateau avec nous.
Merci à vous. Merci.
On remercie également Stéphanie Sago, Laurence Merle et Azalina Mohidini que vous avez entendu dans les capsules.
Paye ta vie d'artiste est un podcast Manifesto 21 signé Sarah Dieppe et Soizic Pinault. Cet épisode a été produit grâce au soutien de l'École des Beaux-Arts de Marseille. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. L'habillage musical est signé Alexis Schell et nous remercions chaleureusement Anne-Swan Lannes, Valentin Vert et Lola Sahar pour les échanges fructueux qui nous ont permis de mener à bien cette émission. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur manifesto-21.com.